Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
Logement, un état des lieux. Le logement occupe la première place dans le budget des ménages. L'insuffisance de l'offre dans les zones les plus tendues, qui sont aussi les territoires les plus dynamiques sur le plan économique, explique en partie cette crise devenue endémique depuis le début des années 2020. Pour les personnes souhaitant devenir propriétaires, la cession à la propriété se heurte à la hausse récente des taux d'intérêt, qui rend plus difficile l'obtention d'un prêt immobilier, en particulier pour les primo-accédants, les jeunes et les ménages modestes, bien sûr. Côté construction, faute d'un rythme suffisant, la pénurie de logements s'aggrave et l'ensemble du marché, à la location comme à la vente, se grippe. L'équation se complique avec l'indispensable transition écologique. Résultat, les zones rurales ont surperformé en termes de prix, plus 6,4% en moyenne sur un an glissant. Vous avez déjà pensé à acheter un appartement, une maison dans une zone rurale ? Vous n'êtes pas les seuls. Selon les derniers chiffres des professionnels de l'immobilier français, la valeur des maisons et appartements dans ces régions la demande grandissante. Comment répondre aux besoins croissants de logements en milieu rural ? Vaste question. Entre crise sanitaire, la Covid, qui en a eu raison, et préservation des sols, deux épines dans le pied pour loger les ruraux. D'un côté, l'exode d'une partie de la population des grandes villes vers nos campagnes, source d'un amoindrissement du nombre de biens à la vente et d'une hausse du prix de l'immobilier, dont pâtissent tout particulièrement les locaux. Difficile de répondre à la demande d'accès au logement pour leur propre population locale, mais aussi pour la population qui arrive, s'émeut les maires ruraux. L'accès à la propriété des ruraux du cru, zone tendue.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
La résidence Pierre de Beaujeu, la plus caladoise des EHPAD en reconstruction sur le même site, rue Pierre Berthier, à Villefranche-sur-Saône. Deux phases de travaux pour le projet de construction, suivies de la démolition de l'existant au bénéfice de l'extension de l'établissement pour une capacité d'accueil doublée. Un engagement de 22 millions d'euros pour l'hôpital de Villefranche-sur-Saône.
Marie-Pierre Bangevani Verget, je suis directrice générale des hôpitaux Nord-Ouest. Oui, alors c'est une réhabilitation et une reconstruction, hein, puisque nous détruisons le bâtiment actuel. Donc c'est un projet qui a démarré en 2019, fin 2019, pour lequel nous avons connu quasiment 2 ans de retard du fait de la crise de la pandémie Covid et pour lequel le chantier a démarré en septembre 2023. Donc c'est un très beau projet de, comme je le disais, reconstruction de cet EHPAD résidence Pierre de Beaujeu en centre-ville de Villefranche, hein, afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de rester vraiment situées en centre-ville à Villefranche, que ce soit pour les résidents, pour leurs familles ou pour les professionnels, avec une augmentation de capacité, puisqu'aujourd'hui nous avons une unité de soins de longue durée de 40 lits, donc ça c'est pour les résidents, je dirais, les plus dépendants, avec qui nécessitent un certain nombre de soins hospitaliers, donc cette unité restera identique. Et par contre, aujourd'hui, nous avons 25 résidents d'EHPAD et nous en aurons 63 au terme du projet. Donc un projet d'une capacité totale de 103 lits.
Et qui répond effectivement à une demande, j'imagine.
Oui, oui, tout à fait. Donc on a très régulièrement des demandes de résidents et de leurs familles pour intégrer l'EHPAD de Pierre de Beaujeu, y compris aujourd'hui, alors que les locaux sont quand même très anciens, hein, puisque on est dans des locaux qui datent des années 1970. Donc nous n'avons pas de doute que nous aurons des demandes importantes dès que le projet arrivera à son terme dans les nouveaux locaux.
Destiné aux personnes âgées dépendantes, EHPAD, et aux personnes hospitalisées en unité de soins de long séjour, USLD, avec une forte demande d'hébergement des seniors.
Il y a un EHPAD public à Arnas, hein, l'EHPAD Château-du-Loup, il y a un EHPAD public à Blacé, pardon, l'EHPAD Courageau, et il y a d'autres EHPAD publics, il y a Michel Lamy-Anse, etc. Mais au niveau de la ville de Villefranche, c'est le seul EHPAD entièrement public, oui, absolument.
Oui, la résidence Pierre de Beaujeu reste sur le même site. Sa situation géographique, au centre-ville et au plus proche des transports en commun, fait de cet établissement une résidence des plus appréciées des habitants, mais aussi des agents de soins.
C'est ça, oui, le projet initial était une délocalisation, hein, de cet EHPAD sur le site de Glaizé. Et finalement, après moult réflexions, que ce soit avec les élus ou avec les professionnels, on a fait le choix de rester en centre-ville de Villefranche, à proximité de la gare, Gérard, à proximité de la rue Nationale, enfin un endroit bien, bien stratégique.
Ce projet de reconstruction de la résidence Pierre de Beaujeu s'inscrit dans un programme d'agrandissement de rénovation du patrimoine hospitalier des hôpitaux Nord-Ouest et de modernisation de l'offre publique sanitaire et médico-sociale du Nord du Rhône. Mais elle est également une amélioration des conditions de travail des professionnels et une facilitation des parcours de soins des patients.
Eugénie Biller, la cadre de santé de la résidence Pierre de Beaujeu. Pour le début du projet, il y a eu plusieurs projets qui ont été proposés. Les équipes ont été sollicitées. Elles n'étaient pas du tout décisionnaires, mais elles ont pu donner leur avis. Et pour la bonne nouvelle, c'est le projet qu'elles souhaitaient qui ont été retenus. Donc tout de suite, elles se sont mobilisées. On a travaillé avec les infirmières sur la salle de soins pour qu'elle soit plus ergonomique. Donc elles sont régulièrement sollicitées. On fait des points d'étape réguliers dans l'année et on en parle, mais vraiment très souvent. Donc vraiment, elles sont dans le projet.
Frédéric Costapatry, donc médecin gériatre à l'hôpital Nord-Ouest.
On a dû réorganiser certaines choses. Effectivement, puisqu'on sait qu'on va avoir un bâtiment qui va pousser, si vous voulez, contre une partie de notre bâtiment, on a dû effectivement aujourd'hui voir notre capacité d'accueil à la baisse. Et puis on réfléchit à l'accompagnement des résidents qui sont plutôt intéressés par ce qui se passe à l'extérieur parce que ça fait une animation en fait.
Les résidents et les familles ont été rencontrés par la directrice. Le projet a été présenté. Des chambres vont devenir inutilisables pendant quelques mois. Du coup, il y a eu des déménagements. Tout ça s'est fait avec la directrice, la famille, la psychologue qui accompagne pour le déménagement d'une chambre parce que ça peut être beaucoup de pertes de repères. Donc, ils sont vraiment aussi partie prenante du projet et beaucoup souhaitaient en fait rester pendant les travaux plutôt que d'aller dans une autre structure et perdre tous les repères.
Un déploiement de la nouvelle résidence sur 5 niveaux. Une harmonie des matériaux et de couleurs, une conservation des éléments patrimoniaux identitaires du lieu et du quartier en accord avec la demande.
Dominique Lapernon, je suis donc associé, co-gérant et fondateur de Genius Loquet Architectes. L'hôpital Nord-Ouest a donc fait un programme pour définir les besoins. Donc il y a une augmentation de capacité de l'EHPAD actuel qui fait 65 lits. On l'a passé à 103 lits, donc avec une capacité d'accueil de 40 lits en soins de longue durée des patients et puis des résidents en EHPAD de 63 lits. La décision de démolition du bâtiment actuel était prise assez en amont puisque celui-ci en fait, ne correspondait plus aux attentes et aux besoins futurs, notamment par sa trame constructive qui empêchait une facile réhabilitation. Et donc toute la difficulté, c'était de concevoir un nouveau projet qui soit phasé de telle sorte à ce que l'établissement actuel continue à être occupé pendant toute la durée des travaux. C'est-à-dire qu'actuellement, l'EHPAD actuel n'est pas de plein pied avec le terrain, donc ça c'est une donnée importante, tandis que le futur établissement, lui, sera vraiment de plein pied avec le jardin, le parc, donc les résidents pourront sortir plus facilement dans leur environnement, ce qui militait justement pour une démolition du bâtiment actuel, qui lui donc est 1,50 m plus haut que le niveau du sol. Et on a fait le choix de conserver la maison bourgeoise pour des questions patrimoniales, car c'est un élément architectural important pour le quartier. Voilà, et donc le projet vient en harmonie avec cette maison tout autour.
Alors Philippe Ginet, je suis directeur général de l'entreprise Florio. Alors on est sur un bâtiment R+3, construit sur un sous-sol général. Ce sous-sol général, il nous permet de loger les véhicules en sous-sol et surtout de ne pas consommer de la pleine terre. Le fait de ne pas consommer de pleine terre nous laisse après un parc paysager libre pour les résidents. Cette construction, elle s'organise autour d'un noyau central qui vient distribuer les ailes et l'ensemble des étages. Alors, sur l'énergie de chauffage, on est sur le réseau urbain de chauffage. Donc, on utilise un équipement déjà existant. En plus, cet équipement, il utilise de la biomasse pour produire son énergie. Sur tout ce qui est consommation d'électricité, on est sur des faibles consommations, forcément de la LED, voilà. Et on a une enveloppe isolante et performante.
C'est-à-dire ?
Alors, en termes d'isolation, on est sur un programme RT 2012 -20%, ce qui correspond au RE 2020 aujourd'hui. je vous éclaire. C'est les réglementations thermiques. Voilà. Aujourd'hui, on est sur la nouvelle réglementation thermique des bâtiments.
Ce sont des travaux de 36 mois qui sont actuellement engagés sans interrompre l'activité de la résidence. La phase 1, 16 mois pour la construction de l'aile sud de la future résidence, et emménagement de 50 chambres et espaces associés, puis phase 2, 20 mois de démolition du bâtiment des années 80 et construction de la deuxième partie du bâtiment neuf, soit 103 lits en EHPAD, en unité de soins de longue durée et unité fermée pour des résidents ayant des troubles neurocognitifs. Au sous-sol, un parking de 42 places, accessible aux professionnels et aux visiteurs. Et le patrimoine caladois sera préservé par la conservation de la maison bourgeoise du 19e siècle installée dans le parc. Ouverture de l'établissement en septembre 2026. Les champions 2024 pour la traditionnelle soirée de mise à l'honneur des sportifs de la localité. À l'initiative de l'Office des sports de Villefranche-sur-Saône, en collaboration avec la ville de Villefranche, comme nous le précise Martine Toyon, la présidente de l'OSV.
C'est un grand événement, oui. Disons, on est partenaire avec la ville, la région, et puis Decathlon qui nous sponsorise pour notre trophée bénévole. Donc en général, l'Office des sports assiste aux AG des différentes associations qui sont affiliées à l'Office des sports. Nous faisons une plaquette tous les deux ans où on met toutes les associations sportives. Et sur notre site, les gens peuvent aller voir, quand ils ont envie de faire du sport, ils vont voir sur le site et ils ont tous les renseignements liés à tous les sports de Villefranche. Les sports l'aïkido, même le billard, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire sur Villefranche.
Toutes les disciplines sportives sont représentées en quelque sorte et sont adhérentes de l'Office.
Voilà. Je pense que sur la ville, il y a plus de 80 clubs, il y en a une soixantaine qui adhèrent à l'Office des sports. Et le fait d'adhérer à l'Office des sports, ça leur permet d'avoir plus de visibilité et puis de participer aux actions que l'on mène. La soirée champion, mais il y a aussi le Téléthon, par exemple, que l'on a fait il y a quelque temps, en début de mois. Et en plus, on prête du matériel pour ceux qui adhèrent, pour leurs activités aussi quand ils font une manifestation. Surtout en ce moment, on est parti pour notre soirée champion, où on met à l'honneur les champions qui adhèrent à l'Office des sports.
La cérémonie aura lieu ce jeudi 11 janvier à partir de 19h à l'atelier. Qui sera mise à l'honneur?
Alors, de nombreux champions et tous les ans, nous mettons un bénévole, puisque bien souvent les bénévoles, on les oublie un petit peu. On voit les champions, on voit les sportifs. Alors, ça peut être un dirigeant ou ça peut être une personne simplement qui est là pour aider, qui entraîne depuis de nombreuses années. Il y a eu un jury et cette année, c'est Florence Motte qui sera mise à l'honneur. Elle est entraîneur et elle fait partie du club des Hirondelles et elle fait partie du bureau aussi. Elle est très investie dans son club.
Et pour nos sportifs, alors?
Alors, pour nos sportifs, cette année, il y en a de très nombreux. On en a plus de 200, donc je vais pas...
C'est difficile.
Les citer, ça ferait un petit peu trop.
Donc, il y en a à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau local.
Il y en a à tous les niveaux, voilà. D'abord au niveau départemental, après au niveau régional et national et international même. Nicolas Caudrier, qui est champion national, champion de France de voile, de vol à voile. En GRF, il y a Alaïs Ottinger et Justine Chalençon. En haltérophilie, il y a Martine Roche, qui est récompensée même au niveau mondial. Et en natation, il y a Mélanie Bézard, Manon Demajon, Valentine Leclerc, qui a déjà été récompensée pas mal l'année dernière. C'est une très bonne nageuse, et Lubin Vianneau, qui sont tous en natation. Mais vous en avez aussi dans le secteur bouliste. Les boules ont été représentées cette année au niveau national. Donc une doublette, Jérôme Bedin et Nicolas Carrasco avec Fabien Signé. Il y a l'Union des patineurs aussi avec Noëlès Collardier. Et puis au niveau mondial, en triathlon, nous avons Pierre Barbier. Et en volley, nous avons Aline Chamereau qui sont récompensées aussi au niveau mondial. Sur des championnats du monde qui se déroulent tous les ans. Donc en natation, je crois qu'il y en a qui sont présélectionnés pour les JO, mais qui n'ont pas encore abouti.
Mais c'est déjà bien dans les tuyaux, c'est ça, vous voulez dire?
Voilà, oui.
Les sportifs, effectivement, sont tournés plutôt vers les JO en ce moment?
Il y en a, je pense, qui espèrent. Après, est-ce qu'ils y arriveront? Ça, on peut pas savoir, mais on va leur souhaiter.
Très bien.
On va leur souhaiter. C'est l'espoir pour les JO, c'est l'espoir et on espère tous les ans et on est très fiers On est très fiers d'eux et on est très fiers de leur remettre un petit trophée parce que ça fait énormément plaisir à la ville et ça la met un peu à l'honneur. Ils font briller nos couleurs à l'international. Il faut connaître Villefranche à l'international et je trouve que c'est valorisant pour la ville aussi.
Les Jeux Olympiques 2024, ils en rêvent. Ce sera le plus grand événement jamais organisé en France. Pour rappel, ils se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024, durant 16 jours à Paris. Des Jeux qui rayonneront dans toute la France, l'occasion pour chaque localité d'engagement sportif. À nous de relever le défi.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.